Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM avec nous au téléphone Gouar Galustian. Bonjour Gouar.
Oui, bonjour François.
Et merci de nous accorder quelques minutes. Alors je vais brièvement recadrer le décor de notre rencontre et pourquoi le tutoiement sera d'ailleurs de rigueur dans cet entretien. Le Yeras Festival, la quinzaine arménienne qui s'était tenue fin mars, début avril dans nos Gascones contrées. On avait suivi particulièrement sur nos ondes et dans les pas de Guillaume Toumanian, artiste peintre le plus landais des Arméniens double culture, ce qu'il avait initié Guillaume au Centre d'art contemporain avec le projet Menk, l'exposition d'une vingtaine d'artistes avec notamment la résidence de Tigran Saakyan et Arman Vanyan. Et cette rencontre que tu avais animée, Gouar, et dont tu avais traduit les échanges, tu es Gouar, attaché d'enseignement et de recherche de droit et de sciences politiques à la faculté donc, de Montpellier. Il y avait beaucoup de sourires, de convivialité, de moments très forts dans ces rencontres à l'époque, et les sourires, malheureusement, se sont un petit peu ternis, ont même un petit peu disparu. Il nous a paru indispensable, sur les ondes de Radio MDM, de faire un point sur ce qu'il se passe, justement, en Arménie actuellement. Tu peux nous faire, Gouar, pour débuter cette rencontre, un point au moment où on se parle de la situation en Arménie.
Très bien, merci beaucoup François. Avant de répondre à ta question, je tiens donc tout particulièement à te remercier, à remercier la radio MDM de l'attention que vous portez à la situation très inquiétante en Arménie. Et je fais ce constat tout en remarquant un silence assourdissant de la part des médias occidentaux et plus spécifiquement français sur cette situation, qui au mieux reprennent quelques éléments de langage parlant des affrontements frontaliers ou des camps qui s'accusent mutuellement ou encore de la provocation de la part des Arméniens, qui donc tous ces éléments de langage sont bien sûr loin de la réalité, qui est beaucoup plus malheureuse et tranchée. La nuit du 12 au 13 septembre, l'Azerbaïdjan a attaqué militairement l'Arménie, un État souverain. Donc l'Azerbaïdjan a attaqué le territoire d'un État internationalement reconnu qui fait partie de l'ONU, en visant non seulement les positions militaires, mais aussi des infrastructures civiles. Et l'argument de la provocation de la part de l'agressé est un procédé fréquent de la part de l'agresseur. Cet argument est facilement renversé, puisque l'Azerbaïdjan a bombardé l'Arménie sur une ligne de 250 km. Et cette agression a fait 300 morts et plus de 8000 déplacés, parmi lesquels on compte bien sûr les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Donc la situation est très urgente, puisque l'Arménie se trouve aujourd'hui face à une question existentielle, et la question se pose aujourd'hui de savoir si l'Arménie ne va pas disparaître très prochainement.
Ouais, ce silence assourdissant que tu évoquais, c'est aussi pour ça qu'il nous a paru indispensable dans ce lien qu'on a tissé avec l'Arménie à l'occasion de ce festival, d'en faire écho et d'entendre une voix, parce que c'est vrai que peut-être portée par l'effervescence médiatique autour de ce qui se passe en Ukraine, autour de ce qui se passe en Iran, autour de ce qui se passe plus généralement un petit peu partout, l'Arménie, ce conflit, semble la grande oubliée actuellement, Gouar.
Exactement, on constate que les situations similaires ont lieu à différents endroits de l'Europe, donc je parle bien sûr de l'Ukraine et de l'Arménie, et pourtant le traitement n'est pas du tout le même, et on a du mal à comprendre. Les Arméniens se sentent aujourd'hui abandonnés et oubliés des médias français, des médias occidentaux. Les hommes politiques, les médias, l'Union européenne ont tenu, et à juste titre, et bien sûr je tiens à le saluer, à dénoncer l'attaque par la Russie du territoire souverain de l'Ukraine. Il se trouve que la situation très proche s'est produite en Arménie, qui est une petite dictature, une petite dans le sens d'un petit pays qui n'a pas beaucoup de ressources, notamment économiques, qui a été attaqué par l'Azerbaïdjan, qui est une dictature, qui est une monarchie, ce qu'on appelle une monarchie pétrolière. Donc je rappelle pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien la région, l'Azerbaïdjan donc est un État qui est présidé par M. Aliyev, qui est au pouvoir depuis 2003. Et pourquoi on parle de la monarchie? Parce que le pouvoir passe de père en fils, et se trouve que le président actuel a succédé en 2003 à son propre père, qui lui avait été au pouvoir depuis de nombreuses années. Et au total, on compte une cinquantaine d'années de règne de la famille d'Aliyev. L'État azerbaïdjanais vit principalement de ses rentes pétrolières, qui sont grosso modo partagé par une certaine élite politique. Et il faut bien distinguer l'Azerbaïdjan en interne et l'Azerbaïdjan en externe, puisque si en externe, il s'agit d'un État qui pour être quand même qualifiée d'une puissance militaire dont à l'échelle régionale, à l'échelle du Caucase. En interne, il s'agit d'un État fragilisé. Le gouvernement n'est pas du tout populaire. Il n'a plus la légitimité auprès du peuple azéri qui est touché par la corruption, par cette élite politique qui se partage la rente pétrolière, et un procédé extrêmement classique de la dictature pour détourner l'attention sur des problèmes internes, c'est de lancer une action externe militaire qui, donc, plus est, intervient dans un contexte particulier où tous les regards sont rivés sur ce qui se passe en Ukraine. Et donc, tout le monde est occupé, les médias, les hommes politiques, et l'Arménie se trouve oubliée. Pour faire rapidement un rappel de la réaction de l'Union européenne, qui, encore une fois, est tout à fait légitime, l'Union européenne a voté des paquets de sanctions contre la Russie. Ces sanctions ont notamment touché les livraisons de gaz. Il se trouve qu'en juillet dernier, l'Union européenne signe un nouvel accord avec l'Azerbaïdjan pour doubler les livraisons de gaz. Si l'Union européenne a sanctionné la Russie pour avoir agressé l'Ukraine en rompant ses relations économiques, Ursula von der Leyen a signé un contrat avec un autre dictateur pour exactement le même type de contrat. Ce n'est pas seulement un comportement qui ne respecte pas les principes moraux, mais il ne respecte pas non plus les principes juridiques. Sans rentrer dans le détail technique du droit européen qui est un peu complexe, le projet d'une directive européenne de février 2022 porte sur le devoir de vigilance de la chaîne d'approvisionnement, et cette directive interdit particulièrement aux entreprises, y compris donc toutes les entreprises qui font partie de l'Union européenne, de faire des affaires avec des fournisseurs, notamment de gaz, qui violent les droits de l'homme. Et là, on est face quand même à une situation criante où on fait affaire avec l'Azerbaïdjan en le faisant passer pour un allié fiable, alors que c'est une dictature comparable à la dictature russe.
Ouais, où l'on se rend compte de l'interdépendance et du contexte international dans lequel ce conflit s'est malheureusement rallumé il y a quelques semaines de cela. Le rôle de régulateur qu'avait Moscou jusqu'à présent, je crois, dans ce contexte et dans cette région du Caucase.
Oui, effectivement. Donc cette offensive de septembre 2022 doit être mise en contexte plus général, et il faut rappeler qu'en septembre 2020, donc il y a 2 ans, toujours pendant un contexte particulier où les médias étaient occupés avec l'élection présidentielle aux États-Unis, et c'était la période post-Covid, l'Azerbaïdjan avait déjà lancé une offensive de grande envergure. Cette fois-ci, elle touchait les Arméniens du Haut-Karabakh. La guerre, qui a duré 44 jours, s'est soldée par un cessez-le-feu qui a été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous le patronat du groupe de Minsk. Et dans le cadre de ce groupe de Minsk, la Russie, qui co-préside ce groupe de Minsk, s'était portée un peu comme le garant du maintien de paix dans cette région. Et les forces russes assurent en fait le maintien de paix, assurent le rôle d'interposition entre les deux États. Occupée ailleurs et faible militairement, la Russie ne parvient pas à maintenir cette situation sous le contrôle, et l'Arménie se trouve d'autant plus abandonnée. Pour comprendre plus généralement tout ce qui se passe en Arménie, donc c'est pas seulement un conflit territorial comme on a pu le lire ou l'entendre. Il s'agit de quelque chose de plus important. L'Arménie se trouve aujourd'hui victime de sa propre situation géographique, et elle est en proie des volontés expansionnistes des empires du Caucase. Donc, si on regarde la carte de loin, on va vite se rendre compte que, en fait, l'Arménie se trouve au milieu des empires. On a toujours dit qu'elle était au carrefour des empires. D'un côté, on a la Turquie, qui est aujourd'hui animée par une vraie idéologie néo-ottomane où, en fait, le président Erdogan caresse l'espoir de récupérer les territoires qui autrefois appartenaient à l'Empire ottoman, donc les territoires des Balkans, du Caucase, du Moyen-Orient. On a la Russie qui, à son tour, cherche une expansion, et on le voit particulièrement à l'ouest avec l'Ukraine. Et puis on a l'Iran qui, à son tour, veut créer un axe vers la Méditerranée. Et donc l'Arménie se trouve au milieu de ces volontés expansionnistes. Et la raison pour laquelle elle est particulièrement, si je peux me permettre, gênante pour l'Azerbaïdjan, qui, elle, est très proche politiquement, militairement, idéologiquement avec la Turquie, parce qu'il faut comprendre que l'Azerbaïdjan n'agit pas seul, elle est aidée par la Turquie, qui est son allié ou tuteur historique. La Turquie qui veut en fait honorer son idée pan-turquiste ou néo-ottomane voudrait avoir une continuité territoriale de tous les États qui sont peuplés par les turcophones ou les populations d'origine turque. Donc il s'agit de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et des pays du Moyen-Orient qui sont donc habités par les populations turcophones. Il se trouve qu'au milieu donc de cette continuité territoriale, eh bien il y a l'Arménie et plus spécifiquement le sud de l'Arménie, donc Sunik, qui est exactement la région qui a été touchée par les bombardements, par les attaques de septembre 2022.
On imagine, Gohar, que tu te tiens évidemment très au courant, très informé de ce qui se passe en Arménie. Tu es en liaison régulière avec des personnalités ou des personnes qui te tiennent au courant de l'évolution de tout ça ?
Oui, bien sûr, comme toute personne inquiète pour ce qui se passe en Arménie, je me tiens informée dans la mesure du possible, même si la situation est suffisamment compliquée pour avoir des informations, mais on est suffisamment documenté en images, en vidéos, il y a beaucoup de choses qui circulent et grâce à quelques journalistes qui sont rares, mais qu'il faut quand même souligner leur importance et leur courage, qui se rendent sur place, qui constatent les choses par leurs propres moyens, on comprend la réalité urgente de réagir parce que c'est vraiment l'État entier qui est en jeu et c'est un peuple qui se fait massacrer aux yeux de tous et il est inconcevable qu'en 2022 on puisse laisser ça.
Et puis en échangeant récemment avec Guillaume Toumanian qui nous a mis en liaison au Gohar, il m'évoquait un petit peu comme ça à nouveau malheureusement le fait que le peuple arménien se sente en danger de mort, que l'Arménie puisse mourir. Il y a de ça, Gohar ?
Oui, tout à fait. Il faut comprendre que cette opération, cette guerre, cette offensive militaire, elle est animée par une logique génocidaire. Et d'ailleurs, on ne peut même pas nous reprocher d'inventer ou d'exagérer quelque chose parce que les autorités de la Turquie et de l'Azerbaïdjan ne le cachent absolument pas. Les Turcs parlent des Arméniens comme des restes de l'épée, faisant référence au génocide de 1915 et ils proposent, ils promettent de finir le travail. Et puis il y a tout un vocabulaire, tout un champ lexical de déshumanisation des Arméniens qui sont comparés systématiquement aux chiens, aux animaux qu'il faut chasser de cette région. Et d'ailleurs, ce racisme anti-arménien, il est absolument structurant dans la politique de l'Azerbaïdjan. Cette politique, elle se retrouve dans le système éducatif, au sein des écoles, au sein des manuels, au sein des classes, des enfants. Mmh. Et il s'agit pas seulement des affirmations qui sont pas fondées. J'en veux pour preuve plusieurs déclarations, ordonnances qui ont été rendues par la Cour internationale de justice, par le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, par le comité pour la discrimination raciale auprès des Nations Unies, qui ont tous pointé l'Azerbaïdjan comme animant et mettant en place un véritable discours de haine, une politique raciste. L'Azerbaïdjan a été également pointé pour son traitement inhumain des prisonniers de guerre qu'elle détient depuis la guerre de 2020 et aussi pour la destruction du patrimoine culturel et religieux des Arméniens qui se trouvent dans les territoires qui ont été annexés à nouveau en 2020. Donc tout ça est extrêmement bien documenté par les Azerbaïdjanais eux-mêmes, et c'est quand même le degré de la perversion de la chose, c'est que les Azerbaïdjanais eux-mêmes publient fièrement sur les réseaux sociaux des vidéos de torture, des vidéos de viol, des vidéos de traitement qui font vivre et aussi bien aux prisonniers de guerre ou aux populations arméniennes. Récemment, l'opinion publique arménienne a été absolument choquée par la vidéo qui a beaucoup tourné d'une femme qui a été prise en otage par les Azerbaïdjanais, qui a été violée, démembrée. Bon, je vais passer les détails je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour vraiment vous montrer à quel point c'est quelque chose qui est fièrement montré, revendiqué par les Azerbaïdjanais. Et c'est une véritable stratégie génocidaire qui se met en place petit à petit, aux yeux de tous, et sans que personne ne s'en offusque. Et c'est vraiment très, très... C'est très gênant, pour pas dire limite, aussi bien du point de vue moral que juridique.
Et dans le contexte tel que tu nous le décris, avec cet aspect génocidaire, est-ce que tu y vois, toi, Gohar, un espoir de quelque chose ou pas ?
Alors oui, parce que je suis de nature optimiste. mais cette fenêtre optimiste ne peut s'ouvrir que si l'Arménie est aidée par des puissances occidentales, puisque, on l'a déjà dit, l'Arménie ne peut plus compter sur la Russie. L'Union européenne doit agir comme elle a agi pour la Russie face à l'attaque contre l'Ukraine. Il serait préférable que l'Union européenne vote des sanctions, qu'elle lève en fait ses leviers d'action diplomatique pour que l'Azerbaïdjan arrête de massacrer le peuple arménien, aidé en plus par la Turquie. Donc l'issue positive est possible, mais elle est inconcevable si l'Arménie demeure seule comme elle l'est aujourd'hui.
Et puis ça passera alors très humblement du côté de Radio MDM, évidemment, par rapport à l'écho médiatique que l'on peut donner à tout ça. Nous, on se permet, ça nous a paru, comme j'ai dit en introduction, indispensable de faire écho à ça suite aux magnifiques aventures qu'on a vécues avec les Arméniens et tous ces rendez-vous qui nous ont bien marqués dans l'équipe de Radio MDM et un petit peu aux alentours. Ça passera sans doute par briser ce silence un petit peu de médiatique au niveau international, national, même si le contexte, encore une fois, fait que voilà, qu'on a l'urgence médiatique, ça, c'est invisible.
On ne peut que vous remercier. Il n'y a pas de petits pas. Chacun peut intervenir à son échelle et chaque effort est très important.
En tout cas, j'espère qu'à travers cet entretien, Gohar, on aura pu comprendre un petit peu mieux de ce qui se passe en Arménie, mettre un petit peu, très modestement, mais comme tu viens de le dire, c'est important aussi en lumière, ce conflit avec l'Arménie. Et puis, on reprendra des nouvelles aussi parce que Guillaume Toumanian, après une exposition qui va se dérouler du côté de la capitale à Paris, va partir en Arménie en suivant pour rejoindre peut-être Vahan et tous les artistes qu'on avait pu croiser par ici. Et je crois que fin octobre, on essaiera de prendre quelques nouvelles avec Guillaume Toumanian qui devrait être donc du côté de Yerevan à ce moment-là. Et donc on continuera à évoquer tout ça sur les ondes de Radio MDM Gohar.
Très bien, merci infiniment François.
En tout cas,
l'Arménie et le monde marchand n'est pas encore terminé.
Ouais, non mais bien sûr, mais enfin voilà, je vais pas me répéter à nouveau, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vécu avec vous aussi sur Tegazen et qui a été super, qu'on n'oublie pas depuis, avec des liens qui s'étaient tissés, depuis on a encore quelques nouvelles qu'on prend de temps à autre, et là évidemment depuis quelques jours, on pense encore plus à vous et à toi et à Guillaume et aux nombreux Arméniens de l'Hexagone. Merci beaucoup, Gohar, de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Je voudrais nous souhaiter de la paix. Voilà, la paix pour l'Arménie et pour l'Europe.
Զանգեցի, որ շուտ բերեն երեխուս տուն։ Բերեցին տուն, այնուհետև չգիտեմ ինչ էր կատարում մեր հետ, քանի որ 2016 թվականին նույնն էր, էլի պատերազմ էր։ Նույն բանը նորից կրկնվեց, իմ երեխես երկու անգամ արդեն պատերազմ էր տեսել, չգիտեմ ինչ օրեր էին, ես բուժքույր եմ, աշխատանքի էի գնում, մի օր գնացինք աշխատանքի, դուրս եկանք աշխատանքից, որ գանք տուն, տեսնենք ինչ-որ բան պայթեց, շատ մոտ էր, վախեցա, եկա տուն երեխեքիս մոտ, չէի կարողանում կապնվել ամուսնուս հետ, քանի որ առաջին օր այս կորվանից մեկնել է կրվի դաշտ, առաջին գոտում էր գտնվում, նա ուսուցիչ է աշխատում, սակայն երբ պատերազմը սկսվեց, իսկ ույն հակնեց շորերը և ասաց, ես մեկնում եմ պատերազմ, դուք լավ մնացեք, չէի կարողանում կապնվել ամուսնուս հետ, 4 օր, 5 օր, չէի կարողանում խոսել նրա հետ, իսկ երեխաններն արդեն վախենում էին, չգիտեմ ինչ անեմ, մեկնեմ այստեղից, չէի ուզում մեկնել, քանի որ ես ուժ աշխատող եմ, ես ուզում էի մնայի այստեղ և փրկեի մարդկանց կյանքեր, իսկ ինչ որ կախված էր ուզում էի անել, սակայն ինչ անեմ, երեխեքիս ում մոտ թողնեմ, ինչպես անեմ, չգիտեմ, ինձ համոզեցին, որպեսզի ես երեխաններիս վերցնեմ ու մեկնեմ Հայաստան, պաշտպանեմ երեխաններիս, եթե ինչ-որ մի բան լինի, գոնը երեխեքս փրկվեն, մեկ մեկնեցինք Հայաստան, ճանապարհին արդյունքն աչքերիս, չէի էլ կարողանում խոսել ամուսնուս հետ, ասեի, որ մեկնում եմ Հայաստան, գնացի Հայաստան, 2 օր հետո ասացի ամուսնուս, որ ես եկել եմ Հայաստան, ասես ճիշտ է սարե, որ երեխեքին հանել ես այդ տեղից։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ դաժան օրեր էին։ Տղասան ընդհատլացում էր, պապիին էր ուզում, որն էր ուզում։ Չէինք կարողանում խոսել, 7 օր, 8 օր չէինք կարողանում ամուսնուս հետ խոսել։ Ինձ համար շատ դժվար էր, չգիտեի ինչ անեի, գոյատևում էինք։ Ես իմ, ինչ ասեմ, սրանք դաժան օրեր էին, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնեցին մեզ Երևանում, սննդով, կացարան տրամադրեցին, մեր երեխեք չմնացին սոված, սննդով օգնեցին, ամեն ինչով օգնեցին, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ինչ եմ ուզում խնդրել, ուզում եմ բոլոր սփյուռքահայերին, բոլորին դիմել, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ ձեզ, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխանները նորից տեսնեն պատերազմ։ Ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, ինչով կարող եք օգնեք, ամեն ինչ արեք, որպեսզի ճանաչեն Արցախը։ Չգիտեմ, երեխեքը մեղք են, մենք մեղք ենք, ես 29 տարեկան եմ արդեն, 3 անգամ պատերազմ եմ տեսել, փոքր էի, երբ պատերազմը սկսվել առաջի անգամ, բայց հիշում եմ, դաժան էր շատ, իսկ այս անգամ պատերազմը ուրիշ էր, 16 թվին էսպես չէր, այս անգամ պատերազմը ուղղակի դա ահու սարսափ էր։ Չգիտեմ, ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, ամեն ինչ արեք, որպեսզի սփյուռքահայությունը, դիմում եմ ձեզ, արեք անհնարինը, որպեսզի դատապարտեն այն մարդկանց, ովքեր այսպես են վարում մարդկանց հետ, գլխատում էին մարդկանց, չգիտեմ ինչ էին անում, չեմ կարող պատկերացնել, խնդրում եմ ձեզ, ամեն ինչ արեք, որպեսզի մեր սերունդը այլևս պատերազմ չտեսնի, քանի որ մեր երեխանները մեղք են։ 2000, 2001, 2002 կարելի ասել էլ մարդ չմնաց, սաղզոնվեցին, հանում մեր երկրի, հանում մեր Արցախ աշխարհի, սակայն ինչ եղավ, հանձնեցին հողերը, հիմա մենք շատ մոտ ենք Ադրբեջանին, մենք ինչպես հանգիստ ապրենք, ինչպես քնենք հանգիստ, ինչպես քնեմ, երբ մտածում եմ, որ թուրքը շատ մոտ է, իսկ իմ երեխան էստեղ է, խնդրում եմ, արեք անհնարինը, որպեսզի ճանաչեք Արցախի անկախությունը, Արցախը թող անկախ լինի, թող այլևս ոչ մի պատերազմ չլինի, միայն այս Աստծուց դա եմ խնդրում, խաղաղություն լինի, մեր երեխանները ապրեն ազատ անկախ Արցախում, քանի որ մենք չենք ուզում հեռանալ այստեղից, մեզ համար Արցախ աշխարհը սրբություն է։ Դա կարող եմ ասել, շնորհակալություն, խնդրում եմ խոսքս։